Chapitre 3. Comment méditer? La méditation n'est pas affaire de mots, mais de pratique. Il ne sert à rien de lire maintes fois le menu d'un restaurant. Ce qui compte, c'est de se mettre à table. Il est néanmoins utile de disposer des lignes directrices qu'offrent les ouvrages des sages du passé. Ces derniers contiennent des mines d'instructions qui exposent clairement le but et les méthodes de chaque méditation, le meilleur moyen de progresser et les pièges qui guettent le pratiquant. Voyons maintenant quelques-unes des nombreuses méthodes de méditation. Nous commencerons par des préliminaires et des conseils généraux, puis nous envisagerons un certain nombre de méditations particulières qui constituent le fondement de la voie spirituelle. Nous le ferons de la façon la plus simple possible, afin de permettre à chacun de s'y exercer graduellement. On ne soulignera jamais assez l'importance des conseils d'un guide expérimenté. Ce texte ne vise pas à les remplacer, mais à offrir des bases provenant de sources authentiques. Nombre de ces exercices, ceux notamment qui portent sur la pleine conscience, le calme intérieur, la vision pénétrante et l'amour altruiste, sont pratiqués par toutes les écoles du bouddhisme. D'autres, ceux qui traitent par exemple de la façon de gérer les émotions, proviennent des enseignements du bouddhisme tibétain. Ce livre étant destiné à tous ceux qui désirent pratiquer la méditation sans vouloir nécessairement s'engager dans le bouddhisme, nous n'avons pas expliqué certains fondements de la pratique bouddhiste proprement dite, comme la prise du refuge, de même que certains sujets trop spécifiques. Nous aborderons les thèmes suivants. La motivation qui doit précéder et accompagner tout effort. Les conditions favorables à l'exercice de la méditation. Suivre les conseils d'un guide qualifié, les lieux propices à la méditation, une posture physique appropriée, l'enthousiasme comme moteur de la persévérance. Quelques recommandations générales. Tourner son esprit vers la méditation en contemplant la valeur de la vie humaine, la nature éphémère de toute chose, ce qu'il est judicieux d'accomplir ou d'éviter, l'insatisfaction inhérente au monde ordinaire, la méditation sur la pleine conscience, le calme intérieur, shamatha, la tension va-et-vient du souffle, la concentration sur un objet, la concentration sans objet, surmonter les obstacles, la progression du calme intérieur. La méditation sur l'amour altruiste. L'amour, la compassion, se réjouir du bonheur d'autrui, l'impartialité, comment associer ces quatre méditations, l'échange de soi contre autrui, apaiser la douleur physique et mentale, la vision pénétrante, vipassana, mieux comprendre la réalité, gérer les pensées et les émotions, à la recherche de l'ego, méditation sur la nature de l'esprit. Dédier les fruits de nos efforts. Associer la méditation à la vie de tous les jours. Pour conclure, souvenons-nous que notre esprit peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi. Le libérer de la confusion, de l'égocentrisme et des émotions perturbatrices est donc le meilleur service que nous puissions rendre à nous-mêmes et à autrui. La motivation. Lorsque nous nous engageons dans une méditation, comme dans toute autre activité, il est essentiel de vérifier la nature de notre motivation. En effet, c'est cette motivation, altruiste ou égoïste, vaste ou limitée, qui donnera une direction positive ou négative à nos actes et en déterminera ainsi le résultat. Nous souhaitons tous éviter la souffrance et atteindre le bonheur. Et nous avons tous le droit fondamental de réaliser cette aspiration. Pourtant, nos actes sont la plupart du temps en contradiction avec nos désirs. Nous cherchons le bonheur là où il ne se trouve pas, et nous nous précipitons vers ce qui va nous faire souffrir. La pratique bouddhiste n'exige pas de renoncer à tout ce qui est réellement bénéfique dans l'existence, mais plutôt d'abandonner les causes de la souffrance, auxquelles nous sommes pourtant attachés comme à des drogues. Cette souffrance étant due à la confusion mentale qui obscurcit notre lucidité et notre jugement, la seule façon d'y remédier est d'acquérir une vision juste de la réalité et de transformer notre esprit. Nous éliminerons ainsi ces causes premières, les poisons mentaux qui sont l'ignorance, la malveillance, l'avidité, l'arrogance et la jalousie, eux-mêmes produits par l'attachement égocentrique et fallacieux au moi. Se guérir de ces souffrances personnelles ne suffit pourtant pas. Chacun de nous ne représente qu'un seul être, alors que les autres sont en nombre infini et veulent tous, au même titre que nous, ne plus souffrir. De plus, tous les êtres sont interdépendants et nous sommes donc intimement liés aux autres. Par conséquent, le but ultime de la transformation que nous allons entreprendre par la méditation est aussi d'être capable de libérer tous les êtres de la souffrance et de contribuer à leur bien-être. Méditation. Réfléchissons à notre situation actuelle. Nos comportements ou réactions habituelles ne mériteraient-ils pas d'être améliorés? Regardons au plus profond de nous-mêmes. N'y décelons-nous pas la présence d'un potentiel de changement? Ayons confiance dans le fait que ce changement est possible. Pour peu que nous fassions preuve de détermination et de lucidité. Formons le vœu de nous transformer, non seulement pour notre propre bien, mais aussi et surtout pour un jour être capable de dissiper la souffrance des autres et de les aider à trouver le bonheur durable. Laissons cette détermination croître et s'enraciner au plus profond de nous. Source d'inspiration par le 14e Dalaï Lama. Faisons-nous preuve d'étroitesse ou d'ouverture d'esprit? Prenons-nous en considération l'ensemble d'une situation ou nous limitons-nous à ses détails? Avons-nous une perspective à court ou à long terme? Est-ce que notre motivation est réellement empreinte de compassion? Notre compassion se limite-t-elle à notre famille, à nos amis et à tous ceux auxquels nous nous identifions? Il faut sans relâche nous poser ce genre de questions. Vœu du Bodhisattva. Que la précieuse pensée de l'éveil naisse en moi si je ne l'ai pas conçue, quand elle a pris naissance, que jamais elle ne décline, mais toujours se développe. Les conditions favorables à la pratique de la méditation. Suivre les conseils d'un guide qualifié. Pour pouvoir méditer, il faut d'abord savoir comment s'y prendre, d'où le rôle essentiel d'un instructeur qualifié. Dans le meilleur des cas, il s'agit d'un maître spirituel authentique, capable d'offrir une source inépuisable d'inspiration et de connaissances, de même qu'une longue expérience personnelle. Rien ne peut remplacer en effet la force de l'exemple et la profondeur de la transmission vivante. Outre sa présence inspirante et l'enseignement qu'il dispense silencieusement par sa seule manière d'être, un tel maître veille à ce que le disciple ne s'égare pas dans des chemins de traverse. Si l'occasion de rencontrer un tel être ne nous est pas donnée, on peut aussi bénéficier des conseils de quelqu'un de sérieux qui a davantage de connaissances et d'expérience que soi, et dont les instructions s'appuient sur une tradition véritable et maintes fois éprouvée. Sinon, mieux vaut s'aider d'un texte, même très simple, comme celui-ci, pourvu qu'il repose sur des sources fiables, plutôt que de s'en remettre à un instructeur dont les enseignements ne reflètent que des fantaisies de son cru. Un lieu propice à la méditation. Les circonstances que nous offre la vie de tous les jours ne sont pas toujours favorables à la méditation. Notre temps et notre esprit sont occupés par toutes sortes d'activités et de préoccupations sans fin. C'est pourquoi il est nécessaire au début de se ménager un certain nombre de conditions favorables. Il est possible et souhaitable de maintenir les bienfaits de la méditation lorsque l'on se trouve plongé dans le flot de la vie courante, notamment en ayant recours à l'exercice de la pleine conscience. Mais initialement, il est indispensable d'entraîner son esprit dans un environnement propice. On n'apprend pas les rudiments de la navigation en pleine tempête, mais par beau temps, sur une mer calme. De même, au commencement, il est préférable de méditer dans un lieu tranquille pour donner à l'esprit une chance de devenir clair et stable. Les textes bouddhistes ont souvent recours à l'image d'une lampe à huile. Si celle-ci est constamment exposée en plein vent, son éclat sera faible et elle risquera à tout moment de s'éteindre. Si en revanche on la protège du vent, sa flamme sera stable et lumineuse. Il en va de même pour notre esprit. Une posture physique appropriée. La posture physique influe sur l'état mental. Si nous adoptons une posture trop relâchée, il y a de fortes chances que notre méditation sombre dans la torpeur et la somnolence. En revanche, une posture trop rigide et tendue risque de susciter l'agitation mentale. Il faut donc adopter une posture équilibrée, ni trop tendu, ni trop relâché. On trouve dans les textes la description de la posture en 7 points. Appelée Vajrasana, posture amadantine. Premièrement, les jambes sont croisées dans la posture du Vajra, communément appelée posture du lotus, dans laquelle on commence par replier la jambe droite sur la gauche, puis la gauche sur la droite. Si celle-ci est trop difficile, on peut adopter le demi-lotus, qui consiste à ramener la jambe droite sous la cuisse gauche et la jambe gauche sous la cuisse droite, posture dite heureuse, appelée Sukhasana. Deuxièmement, les mains reposent sur le giron, dans le geste de l'équanimité. La main droite sur la main gauche, l'extrémité des pouces se touchant. Une variante consiste à poser les deux mains à plat sur les genoux, les paumes vers le bas. Troisièmement, les épaules sont légèrement relevées et penchées vers l'avant. Quatrièmement, la colonne vertébrale est bien droite, comme une pile de pièces d'or. Cinquièmement, le menton est légèrement rentré contre la gorge. Sixièmement, la pointe de la langue touche le haut du palais. Septièmement, le regard est dirigé droit devant soi ou légèrement vers le bas, dans le prolongement du nez. Les yeux grands ouverts ou mi-clos. Si nous avons de la peine à rester assis les jambes croisées, nous pouvons bien sûr méditer sur une chaise ou sur un coussin surélevé. L'essentiel est de maintenir une position équilibrée, le dos droit, et d'adopter les autres points de la posture décrite ci-dessus. Les textes disent que si le corps est bien droit, les canaux d'énergie subtils restent également droits, et par voie de conséquence, l'esprit est clair. On On peut toutefois modifier légèrement la posture du corps selon l'évolution de la méditation. Si l'on a tendance à sombrer dans la torpeur, voire le sommeil, on redressera le buste en adoptant une posture plus tonique, et l'on portera le regard vers le haut, si au contraire l'esprit est trop agité. On se relâchera un peu et l'on dirigera le regard vers le bas. La posture appropriée doit être maintenue le plus longtemps possible, mais si elle devient trop inconfortable, mieux vaut se détendre quelques instants plutôt que d'être constamment distrait par la douleur. On peut aussi, dans les limites de ses capacités, appréhender l'expérience de la douleur, sans la rejeter ni l'amplifier, et l'accueillir comme toute autre sensation, plaisante ou déplaisante, dans la pleine conscience du moment présent. On peut, enfin, faire alterner la méditation assise avec la marche contemplative, une méthode que nous décrirons plus tard. L'enthousiasme comme moteur de la persévérance. Pour s'intéresser à quelque chose et y consacrer du temps, il faut d'abord en percevoir les avantages. Le fait de réfléchir aux bienfaits attendus de la méditation, puis de les avoir quelque peu goûtés par soi-même, nourrira notre persévérance. Cela ne veut pas dire pour autant que la méditation est un exercice toujours agréable. On peut la comparer à une excursion en montagne qui n'est pas à chaque instant une partie de plaisir. L'essentiel est d'éprouver un intérêt suffisamment profond pour maintenir l'effort en dépit des hauts et des bas de la pratique spirituelle. La satisfaction de progresser vers le but que l'on s'est fixé suffit alors à entretenir sa détermination et la conviction que l'effort en vaut la peine. Quelques recommandations générales. Il est essentiel de maintenir la continuité de la méditation, jour après jour, car c'est ainsi que celle-ci prendra peu à peu de l'ampleur et gagnera en stabilité, comme un filet d'eau qui se transforme graduellement en ruisseau, puis en fleuve. On lit dans les textes qu'il vaut mieux méditer régulièrement et de façon répétée pendant de courtes périodes de temps, que d'effectuer de temps à autre de longues séances. Nous pouvons, par exemple, consacrer 20 minutes chaque jour à la méditation et profiter des pauses dans nos activités pour raviver, ne serait-ce que quelques minutes, l'expérience que nous aurons acquise durant notre pratique formelle. Ces courtes périodes auront davantage de chances d'être de bonne qualité et elles entretiendront un sentiment de continuité dans notre pratique. Pour qu'une plante pousse bien, il faut l'arroser un peu chaque jour. Si l'on se contente de verser sur elle un grand seau d'eau une fois par mois, elle mourra probablement de sécheresse entre deux arrosages. Il en va de même pour la méditation, ce qui n'empêche pas d'y consacrer parfois davantage de temps. Si nous méditons de façon trop discontinue, pendant les intervalles sans méditation, nous reviendrons à nos vieilles habitudes et retomberons sous l'emprise des émotions négatives sans avoir la possibilité de recourir au soutien de la méditation. À l'inverse, si nous méditons souvent, même de façon brève, il nous sera possible de prolonger entre les séances formelles une certaine part de notre expérience méditative. On dit aussi que l'assiduité ne doit pas dépendre de l'humeur du moment. Que notre séance de méditation soit plaisante ou ennuyeuse, facile ou difficile, l'important est de persévérer. Si nous nous ennuyons, ce n'est pas à cause de la méditation, mais de notre manque d'entraînement. C'est d'ailleurs lorsqu'on ne se sent pas très enclin à méditer que la pratique est généralement la plus profitable, car elle s'attaque directement à ce qui, en nous, fait obstacle au progrès spirituel. Comme nous le verrons plus en détail, nous devons également équilibrer nos efforts, de sorte que nous ne soyons ni trop tendus, ni trop relâchés. Le Bouddha avait un disciple qui était un grand joueur de vina, un instrument à cordes proche du sitar. Ce disciple avait beaucoup de mal à méditer et en fit part au Bouddha. « Parfois je fais des efforts démesurés pour être concentré et je suis alors beaucoup trop tendu. D'autres fois, j'essaie de me détendre, mais alors je me relâche trop et sombre dans la torpeur. Comment faire ?» En guise de réponse, le Bouddha lui posa une question. « Lorsque tu accordes ton instrument, quelle tension donnes-tu à tes cordes pour qu'elles émettent le meilleur son ?» « Elles doivent être ni trop tendues, ni trop relâchées, » répondit le musicien. Le Bouddha conclut. « Il en va de même pour la méditation. Pour qu'elle progresse harmonieusement, il faut trouver un juste équilibre entre effort et relâchement. » Il est également conseillé de ne pas accorder d'importance aux diverses expériences intérieures qui peuvent surgir au cours de la méditation sous la forme, par exemple, de félicité, de clarté intérieure ou d'absence de pensée. Ces expériences sont comparables aux paysages que l'on voit défiler lorsqu'on est assis dans un train. Nous n'aurions pas l'idée de descendre du train chaque fois qu'une scène nous semble intéressante, car l'important, c'est d'atteindre notre destination finale. Dans le cas de la méditation, notre but est de nous transformer nous-mêmes au fil des mois et des années. Ces progrès sont en général à peine perceptibles d'un jour à l'autre, à l'image des aiguilles d'une horloge qui semblent ne pas bouger lorsqu'on les regarde fixement. Nous devons donc être diligents, mais pas impatients. La précipitation s'accorde mal avec la méditation, car toute transformation profonde exige du temps. Peu importe que le chemin soit long, il ne sert à rien de se fixer une date limite. L'essentiel étant de savoir que l'on va dans la bonne direction. En outre, le progrès spirituel n'est pas une affaire de tout ou rien. Chaque pas, chaque étape, apporte son lot de satisfaction et contribue à l'épanouissement intérieur. Pour résumer, ce qui compte, ce n'est pas de faire de temps à autre quelques expériences éphémères, mais de voir, au bout de plusieurs mois ou de plusieurs années de pratique, que l'on a changé de façon durable et profonde. Tourner son esprit vers la méditation. Afin de renforcer notre détermination à méditer, quatre sujets de réflexion doivent retenir notre attention. Premièrement, la valeur de la vie humaine. Deuxièmement, sa fragilité et la nature transitoire de toute chose. Troisièmement, la distinction entre les actes bénéfiques et les actes nuisibles. Et quatrièmement, l'insatisfaction inhérente à un grand nombre de situations de notre existence. La valeur de la vie humaine. À condition de jouir d'un minimum de liberté et d'opportunité, l'existence humaine offre d'extraordinaires occasions de développement intérieur. Utilisée à bon escient, elle nous offre une chance unique de réaliser le potentiel que nous possédons tous, mais que nous négligeons et dilapidons si facilement. Ce potentiel, voilé par notre ignorance ou confusion mentale et par nos émotions perturbatrices, demeure la plupart du temps enfoui à l'intérieur de nous, à l'image d'un trésor caché. Les qualités acquises tout au long du cheminement spirituel signalent l'émergence graduelle de ce potentiel, comparable à l'éclat d'une pépite d'or qui se manifeste à mesure qu'on la nettoie. Méditation. Rendons-nous compte à quel point la vie humaine est précieuse et aspirons profondément à en extraire la quintessence. Comparée à celle des animaux, cette vie, nous offre la chance extraordinaire d'accomplir une œuvre bénéfique qui dépasse les limites de notre simple personne. L'intelligence humaine est un outil extrêmement puissant, capable d'engendrer d'immenses bienfaits comme de produire de terribles malheurs. Utilisons-la pour éliminer graduellement la souffrance et découvrir le bonheur authentique, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui nous entourent, de sorte que chaque instant qui passe vaille la peine d'être vécu et que nous soyons sans regret au temps de la mort. Comme le paysan qui a cultivé son champ du mieux qu'il pouvait. Demeurons quelques instants dans cette profonde appréciation. Source d'inspiration par Yongay Mingyu Rinpoche. L'une des principales difficultés que l'on rencontre en essayant d'examiner son esprit est la conviction profonde et souvent inconsciente que l'on est comme on est, et que l'on n'y peut rien changer. J'ai moi-même éprouvé ce sentiment de pessimisme inutile dans mon enfance, et je l'ai constaté très souvent chez les autres au cours de mes voyages dans le monde. Sans même que nous en soyons conscients, voir ainsi notre esprit comme une chose rigide empêche en soi toute tentative de changement. Certains m'ont dit avoir essayé de changer au moyen de déclarations affirmatives, de prières ou de visualisations, mais ils ont souvent abandonné au bout de quelques jours ou de quelques semaines, car ils ne voyaient pas de résultats immédiats. Lorsque les méthodes restent sans effet, ils rejettent toute idée de transformer leur esprit. Néanmoins, au cours de mes conversations avec des savants de tout pays, j'ai été frappé par une chose. Presque toute la communauté scientifique s'accorde à penser que le cerveau est structuré de telle sorte qu'il est possible d'effectuer de véritables changements dans notre expérience de tous les jours. La nature éphémère de toute chose. À quoi sert exactement de réfléchir à la nature transitoire des êtres et des choses? La vie humaine, aussi brève soit-elle, a une valeur inestimable. La réflexion sur l'impermanence permet d'apprécier la valeur du temps, de se rendre compte que chaque seconde de vie est précieuse, alors que d'ordinaire nous laissons le temps s'écouler comme de l'or fin entre les doigts. Pourquoi remettons-nous sans cesse à plus tard ce que nous savons intuitivement être essentiel? Il n'est pas nécessaire non plus de trépigner d'impatience en voulant des résultats au plus vite. Il faut acquérir la détermination inébranlable de ne plus perdre de temps en distractions qui n'ont aucun sens. Ne nous laissons plus duper par l'illusion que nous avons toute la vie devant nous. Chaque instant de vie est précieux, car la mort peut survenir à tout moment. La manière dont on envisage la mort influence considérablement la qualité de la vie. Certains sont terrifiés. D'autres préfèrent ne pas y penser, d'autres encore méditent sur elle pour mieux apprécier la valeur de chaque instant et discerner ce qui vaut la peine d'être vécu. Égaux devant le caractère inévitable de la mort, les êtres diffèrent quant à la manière de s'y préparer. Le sage s'en sert comme d'un aiguillon qui avive son courage et le garde des vaines distractions. Il ne vit pas dans la hantise de la mort, mais reste conscient de la fragilité de la vie, de sorte qu'il donne toute sa valeur au temps qui lui reste. Celui qui met à profit chaque instant pour devenir un être meilleur et contribuer au bonheur des autres mourra en paix. Si nous prenions conscience de la nature fondamentalement changeante de toute chose, comment pourrions-nous croire qu'un être est foncièrement mauvais ? Ou qu'une chose est à jamais désirable ou haïssable. Comment pourrions-nous percevoir quelque chose comme étant intrinsèquement mien? Comment pourrions-nous envisager un ego permanent au sein du flot continuellement changeant de notre conscience? Comprendre que le changement est inscrit dans la nature de tous les phénomènes du monde animé ou inanimé nous évite de nous accrocher aux choses comme si elles devaient durer éternellement. Cette dernière attitude se traduit tôt ou tard par la souffrance, puisqu'elle est en porte-à-faux avec la réalité. De plus, lorsque le changement se manifestera, nous comprendrons qu'il est dans la nature même des choses, et nous en serons moins affectés.